Radio Prague, les informations. Bonjour, les députés ont adopté le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Les députés, toujours eux, ont adopté le budget de l'État pour 2012 et puis enfin aide à la zone euro. Le président Klaus ne participe pas à la réunion du gouvernement. Comme annoncé en titre, l'amendement à la loi constitutionnelle relatif à l'instauration du système d'élection du président de la République au suffrage universel direct a été adopté par la Chambre des députés ce mercredi. La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2013. Un mode de scrutin à deux tours semblable à celui des élections sénatoriales où au second tour s'opposent les deux candidats sortis en tête du premier a été choisi. Le texte doit encore être soumis au vote du Sénat où il a toutefois également de fortes chance d'être approuvé. Bohuslav Sobotka, le leader du Parti social-démocrate, majoritaire à la Chambre haute du Parlement, a en effet fait savoir qu'il recommanderait aux sénateurs de son parti de soutenir l'amendement en question. Jusqu'à présent, le chef de l'État était élu par les deux chambres réunies du Parlement pour un mandat de 5 ans. La Chambre des députés, toujours elle, a adopté ce mercredi le projet du budget de l'État pour 2012. Le montant de son déficit doit s'élever à 105 milliards de couronnes, soit environ 4 milliards 300 millions d'euros, soit 30 milliards de moins que le montant total prévu pour la fin de cette année et 3,5% du produit intérieur brut. Le gouvernement a toutefois déjà fait savoir que la loi pourrait être amendée et le budget modifié dans le courant de l'année prochaine si les perspectives et la situation économique ne sont pas favorables. Le budget établi sur la base d'une croissance économique de 2,5%, alors que le ministère des Finances prévoit déjà un taux inférieur à 1%, doit encore être signé par le président de la République. Le président, toujours lui, Václav Klaus, ne participe pas ce mercredi à la réunion du gouvernement au cours de laquelle une décision concernant la participation ou non de la République tchèque à l'aide à la zone euro pourrait être prise. Toutefois, le chef de l'État a déjeuné avec le chef du gouvernement, Petr Nečas, mercredi midi. Les deux hommes sont opposés à l'octroi d'un prêt tchèque de 3,5 milliards d'euros au Fonds monétaire international. Selon Václav Klaus, aider les autres pays endettés serait une décision irresponsable, alors que la République tchèque ne parvient pas à résorber son propre déficit au sein de la coalition gouvernementale tripartite. Le parti Top 09 est favorable à une aide tchèque, tandis que le parti Affaires publiques est lui contre. Pour la toute première fois, la République tchèque va avoir un juge au tribunal pénal international de La Haye. Les États membres représentés au tribunal ont choisi Robert Fremer, âgé de 54 ans. Robert Fremer a auparavant exercé ses fonctions à la Cour suprême de justice de République tchèque, mais il bénéficie également d'une expérience internationale. À l'heure actuelle, Robert Fremer est pour la 5e année consécutive juge au tribunal pénal international pour le Rwanda. La République tchèque a achevé pour l'instant près d'un tiers des projets devant servir à la protection contre les inondations. Entamée en 2007, la réalisation de l'ensemble des projets devrait être achevée en 2013. L'information a été communiquée ce mercredi par le ministère de l'Agriculture. Au mois de décembre de cette année, près de 200 projets avaient été réalisés pour un montant de 3,7 milliards de couronnes, soit environ 145 millions d'euros. Au total, 620 projets qui doivent protéger les communes des inondations ont été planifiés pour la période 2007-2013. Rappelons que dans un passé récent, et en 1997 et en 2002 notamment, la République tchèque a été frappée par des inondations dévastatrices. Les pilotes de CSA Czech Airlines ont levé leur préavis de grève ce mercredi. L'association tchèque des pilotes de transport a signé un mémorandum d'entente avec Český Air Holding, la holding chapeautant à la fois CSA Czech Airlines et l'aéroport de Prague. Selon cet accord, une centaine de pilotes de la compagnie aérienne publique tchèque seront transférés vers Holidays Czech Airlines, une filiale spécialisée dans les vols charters. Par ailleurs, l'association tchèque des pilotes de transport a accepté le transfert de 11 des 30 avions de CSA vers Holidays et Czech Airlines, et ce, à condition que ne soit pas drastiquement réduit le réseau des lignes régulières et les activités commerciales de CSA. Au début du mois, rappelons-le, une trentaine de vols avaient été annulés à l'aéroport de Prague en raison d'un mouvement de protestation d'une centaine de pilotes de CSA opposés au plan de restructuration prévu par leur direction. On termine avec un mot de météo. Comme ces derniers jours, c'est un temps essentiellement nuageux qui règne sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Radana Erdan. Quelques averses à caractère local sont attendues ainsi que des chutes de neige à partir de 800 mètres d'altitude. En plaine, les températures varient entre 3 et 8 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée par Václav Richter. Faits et événements en République tchèque.
La députée Alena Hanáková sera ministre de la Culture dans le gouvernement de Petr Nečas. Invitation à deux expositions d'art contemporain franco-tchèque qui font partie d'un seul projet et se déroulent simultanément à Prague et dans la ville de Klatovie. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à notre émission au chapitre de l'histoire. Dans son cadre, Paul Bauer s'entretiendra avec Nicolas Maslowski, maître de conférence à la faculté des humanités de l'université Charles de Prague, sur son livre consacré aux diverses formes de contestation en République tchèque. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Il est désormais pratiquement sûr que la députée Alena Hanáková succédera à Jiří Besser au poste de ministre tchèque de la Culture. Le recteur de l'Académie des Arts, Ivo Matej, ayant retiré sa candidature, Alena Hanáková reste l'unique candidate à ce poste et sa nomination par le président de la République ne sera qu'une formalité. C'est le mouvement STAN, maire et indépendant, représenté au gouvernement avec le parti Top 09, qui se réserve le droit de nommer son candidat au poste de ministre de la Culture. Après quelques hésitations concernant le choix entre Alena Hanáková et Ivo Matej, il s'est avéré que les conditions posées par ce dernier étaient inacceptables pour les dirigeants actuels. Il est évident qu'ils n'ont pas besoin d'un ministre de la Culture trop indépendant. Par contre, Alena Hanáková semble posséder toutes les qualité d'un fonctionnaire respectué de la ligne politique générale du cabinet du Premier ministre Petr Nečas. Le président du mouvement STAN, Petr Gazdík, se félicite.
Madame Hanáková est une femme sensible, mais elle est aussi un bon manager. Elle a été un excellent maire de la ville de Vysovice. Le ministère de la Culture doit entretenir une communication très délicate avec les artistes, mais a aussi besoin d'un bon manager. Alena Hanáková réunit sans aucun doute ses qualités.
Il y a quelques jours encore, Alena Hanáková était pratiquement inconnue sur la scène politique tchèque. Institutrice de profession, elle était une députée plutôt timide, mais selon les sources parlementaires, elle travaille activement dans les commissions de la Chambre. Parmi ses passe-temps favoris, on retrouve la culture, la lecture, le théâtre et la musique. Interrogée sur ses priorités dans sa nouvelle fonction, Alena Hanáková a souligné son intention de poursuivre le travail de son prédécesseur.
Je suis convaincue que les mesures prises par le ministre Jiří Besser et qui étaient souvent controversées ont été justes. Le secteur de la culture a connu un changement et bien que le ministre n'ait disposé que d'un temps limité, un progrès a été enregistré. Je suis donc convaincue qu'il faudrait renouer avec ces mesures, que ce soit la restitution des biens des églises, la loi sur la protection des monuments historiques ou la loi sur les commission audiovisuelle. Toute une série de mesures entamées par le ministre sortant devrait être achevée.
Plusieurs décisions prises par Jiří Besser au cours de son mandat ont suscité la critique et les protestations. Il s'agit notamment de la fusion administrative du Théâtre national et de l'Opéra d'État de Prague, de l'autorisation de la démolition de caves gothiques au centre de la capitale et aussi son aval à la démolition d'un édifice historique de la place Venceslas. Sans se départir des décisions de son prédécesseur, Alena Hanáková admet que ce dernier dossier pourrait être rouvert.
Je pourrais certainement examiner une fois de plus les documents qui ont été à l'origine de la décision sur le sort de ce monument.
Jak naložit dále teda tady s touto památkou.
L'œuvre majeure de Jerzy Besser a été cependant la préparation de la loi sur le règlement des rapports de propriété entre l'État et les Églises. Alena Hanakova désire mener à bout ce projet tout en constatant qu'il devrait être modifié. Selon le projet préparé par Jerzy Besser, l'État devrait restituer aux Églises 56% de leurs biens immeubles et leur verser aussi progressivement, sur une période de 30 ans, 59 milliards de couronnes, 2,35 milliards d'euros. La future ministre estime que, vu la crise économique actuelle, la période de 30 ans risque d'être insuffisante et devrait être prolongée. L'Uchronie est un terme de science-fiction désignant la création d'une réalité parallèle d'un temps qui n'existe pas. C'est également le titre d'une exposition d'art contemporain franco-tchèque présentée entre décembre et janvier à l'Institut français de Prague et à la galerie Klenova à Klatovy. Jean-Sébastien Letang.
À l'instar de l'exposition Scenario Strategy à la Meat Factory et à laquelle Radio Prague avait précédemment consacré un article, l'exposition Uchronie se veut une autre tentative de croiser des œuvres d'art contemporaines de France et de République tchèque. Organisée avec le soutien de l'Institut français de Prague, par le Fonds régional d'art contemporain ou FRAC de Franche-Comté et par la galerie Klenova de la ville de Klatovy en Bohême de l'Ouest, l'exposition Uchronie se déroule du 9 décembre au 22 janvier à la galerie 35 de l'Institut français. En parallèle, des œuvres sont exposées dans la galerie Klenova à Klatovy. Mais qu'est-ce donc que l'Uchronie, thème central de cette manifestation artistique ? Réponse avec Marc Bambekov, co-organisateur de l'exposition et membre du collectif de commissaires indépendants Le Bureau.
Donc effectivement, il s'agit d'un projet qui s'intitule donc Uchronie ou des récits de collection, qui est le sous-titre. Et l'idée avec ce projet était de croiser donc deux collections d'art contemporain, enfin moderne et contemporain, ce qui concerne la République tchèque. Parce que, comme vous le disiez, effectivement, cette exposition se déploie à Klatovy, donc dans un endroit qui s'appelle la galerie Klatovy Klenova. Et nous avons croisé la collection de cette galerie avec le FRAC Franche-Comté, le Fonds régional d'art contemporain donc de la région Franche-Comté en France. L'idée de cette notion d'Uchronie était de, outre de croiser ces deux collections, était de, Uchronie en fait signifie récit parallèle, hein, c'est quelque chose, en tout cas un dispositif qui est souvent utilisé dans la science-fiction notamment pour créer des récits ou des histoires parallèles. Du coup, ça nous intéressait, en croisant et en cumulant les œuvres de ces deux collections, de créer une sorte de collection idéale. Et à partir de cette collection idéale, nous avons donc déployé une présentation ici à Prague et une présentation à Klatovy.
Un des buts des FRAC est de faire connaître les œuvres d'art contemporaines françaises à l'étranger. Certaines sont ainsi visibles à l'Institut français de Prague. Par exemple, « Mille et une nuits » d'Étienne Bossu, moulage sur le mur de plusieurs portes identiques qui semblent toutes mener vers un univers parallèle. Ou encore l'étonnante « Horloge d'une vie de travail » de Julien Berthier, imposante horloge en acier qui comptabilise le temps d'une vie d'un travailleur français et qui sonnera à sa toute fin. Mais au-delà des œuvres, comment est née cette coopération franco-tchèque ? Réponse avec Marc Bambekov.
Alors l'idée de cette collaboration est venue de façon commune à la fois du FRAC Franche-Comté et de la galerie Klatovy Klenova qui souhaitaient mettre en place un programme de coopération à l'échelle européenne. Ils ont fait appel à un groupe de commissaires qui s'appelle Le Bureau, dont je suis le représentant aujourd'hui. Et l'idée était vraiment de croiser ces deux collections, de voir quels pourraient être les points de comparaison, mais aussi les différences entre les artistes tchèques et les artistes français et internationaux qui sont représentés dans les deux collections.
Comme dans le cas de l'exposition Scenario Strategy, certaines œuvres peuvent sembler difficiles d'approche pour le grand public. Alors, trop élitiste l'art contemporain ?
Alors, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle la galerie Klatovy Klenova et le FRAC Franche-Comté ont fait appel au bureau, c'est que le bureau, donc, qui est ce collectif de commissaires, s'intéresse beaucoup à la question du rapport de l'œuvre aux visiteurs, et notamment en mettant en place des systèmes qui permettent aux visiteurs de comprendre vraiment les œuvres. Donc on est vraiment très sensible à ce que, je dirais, tout un chacun puisse vraiment comprendre aussi ce type d'art qui, comme vous le dites, peut paraître ésotérique, mais qui, voilà, si on y prête un œil un petit peu attentionné, même si on est totalement néophyte, permet de renouveler aussi son regard sur le contexte dans lequel on vit, sur le monde aussi en général.
Une exposition originale, donc, et dont la mise en scène semble de prime abord plutôt réussie. Vous pourrez ainsi la découvrir à l'Institut français de Prague, mais aussi, pour sa partie la plus importante, à la Galerie Klenova de Cracovie.
C'était donc notre invitation à une double exposition qui se tient parallèlement dans les villes de Prague et de Cracovie. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Contrairement à la France où la contestation est parfois perçue comme un élément du patrimoine national, les manifestations en République tchèque sont moins nombreuses ou ont une capacité mobilisatrice plus limitée. Toutefois, depuis 1989, la révolution du velours qui a mobilisé le plus grand nombre de manifestants depuis 1968, la société civile tchèque a évolué et les formes de ces manifestations aussi. Nicolas Maslowski, maître de conférence à la Faculté des Humanités de l'Université Charles de Prague, vient de publier un ouvrage sur la contestation en République tchèque depuis 1989. Au micro de Radio Prague, il présente les principaux éléments de son travail et nous montre que l'observation des manifestations de rue est peut-être l'un des moyens privilégiés pour comprendre comment la société tchèque évolue depuis une vingtaine d'années.
Chapitre de l'histoire. Nicolas Maslowski, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions universitaires européennes un ouvrage intitulé « Manifester en République tchèque ». Comment a mûri l'idée de ce livre ?
En fait, ce n'est pas un sujet qui a mûri dans mon esprit longuement, mais que j'ai croisé, que j'ai rencontré un peu par hasard. Je comptais à l'origine travailler plutôt sur les manifestations qui avaient eu lieu sous le communisme, de manière comparative entre la Pologne et la République tchèque. Et pendant plusieurs années, j'ai eu des grands problèmes d'accès aux sources, les archives étant théoriquement ouvertes, mais de fait fermées à des chercheurs comme moi. Quand je suis arrivé en République tchèque, je suis arrivé au moment où commençait à s'organiser les manifestations de « Merci, mais partez », »,« Děkuji, mais odejdete », qui était un mouvement organisé par les organisateurs de la révolution de velours, par les anciens étudiants.
Donc un mouvement naissant à ce moment-là.
Le mouvement était naissant et a donné lieu à de très grandes manifestations en 1999. Et pour moi, c'était intéressant de voir ressurgir le passé. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à comment la société civile et la protestation ont évolué, quels étaient leurs liens avec le passé et dans quelle mesure elles pouvaient nous aider à comprendre peut-être l'avenir.
Et comment vous avez procédé dans votre enquête, dans votre travail ?
Bon, j'ai croisé plusieurs méthodes et plusieurs sources. Tout d'abord, je suis allé faire du terrain. Je suis allé observer les manifestations, faire ce qu'on appelle de l'observation participante. Quand j'ai réussi, j'ai aussi intégré les groupes des organisateurs avant les manifestations.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai participé à un certain nombre de réunions et j'ai pu observer les stratégies, les débats, les discussions entre activistes de la société civile qui projetaient de protester pour défendre leur cause.
Et vous avez suivi quel type d'activisme, quel type de groupes sociaux disons, quelle cause vous a le plus intéressé dans votre travail ?
J'ai suivi les causes qui me passaient devant. C'est-à-dire que j'ai pas fait un choix systématique en fonction d'un ensemble de sujets qui auraient pu exister. Il n'y avait aucune base de données permettant de faire ce genre de choix. Mais au contraire, j'ai suivi l'actualité. Téléphoner aux organisateurs ou aux responsables d'organisations qui prévoyaient de manifester le plus tôt possible, essayer de m'intégrer, d'être associé aux réunions.
Et parmi ces manifestations que vous avez pu observer en temps réel, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué, qui vous ont semblé le plus intéressantes pour votre travail?
Alors il y avait des manifestations de plusieurs types qui étaient très intéressantes. D'abord il y avait les grandes manifestations. Et 99-2000 était une période, quand je suis arrivé, de grandes manifestations. Il y avait Merci mes partés. Il y avait les manifestations contre le FMI et la Banque mondiale de l'an 2000. Il y a eu aussi des grandes manifestations pour défendre la télévision publique ou pour s'opposer à sa politisation. Mais j'étais aussi intéressé par les petites mobilisations. Comment se fait-il que quelques anarchistes trouvent des motivations à manifester pendant plusieurs heures, entourés par de grandes forces de police et menacés par l'extrême droite ? Comment comprendre une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de manifestants soutenant la mémoire des victimes en Tchétchénie devant l'ambassade russe, alors qu'il n'y a pas toujours de répercussions dans les médias? Donc c'était un certain nombre de sujets qui m'intéressaient, qui me motivaient.
Donc pour votre travail, vous avez fait de l'observation participante des manifestations. Quelles étaient les autres sources que vous avez utilisées?
J'ai aussi eu accès à un certain nombre de rapports de police sur un certain nombre d'années, me permettant de voir du point de vue de la police l'ensemble des manifestations, et ça a pu permettre aussi de faire une étude exhaustive sur ces années-là de l'ensemble des manifestations répertoriées. Et j'ai aussi enfin procédé par entretien. J'ai essayé de parler avec la plupart des organisateurs, mais aussi des activistes ou personnes renommées liées à la protestation ou à la société civile.
Vous avez évoqué la France, et en France, on sait que la tradition des manifestations de la contestation remonte à la Révolution française. Quelle est l'histoire de la manifestation et de la contestation dans les pays tchèques?
Alors c'est une très bonne question. En France, manifester, faire une pétition, protester est quelque chose de si commun que l'on peut se mettre à manifester sans avoir à préparer ça longuement, presque spontanément. Ça fait partie d'un répertoire d'actions commun, habituel. En République tchèque, ce n'était pas le cas en 89. Il s'agissait de quelque chose d'exceptionnel et seul un certain nombre de dissidents étaient habitués à protester. Cette habitude s'est peu à peu élargie, soit sous leur influence, mais peut-être encore plus par l'arrivée d'habitudes, d'idées, d'identités, de pratiques venues de l'Occident. L'arrivée de Greenpeace, de mouvements de gauche altermondialistes ou d'autres mouvements encore, a changé les pratiques de la protestation.
Donc il y avait des traditions tchèques de contestation auparavant.
On peut dire que depuis 1968 et la période de la normalisation, la société tchèque s'était habituée à ne pas protester. Elle laissait l'État faire son travail d'État, elle ne se mêlait pas de la politique et en échange, l'État évitait d'utiliser la violence à l'encontre de cette population. Ce n'est pas avec facilité que les gens acceptent l'idée d'une protestation. L'idée de protester est liée à la peur de la violence qu'elle engendre, que ce soit une violence d'État ou une violence des protestataires, et cette idée est désagréable à beaucoup de Tchèques.
Une dernière question, Nicolas Maslowski. Qu'est-ce que l'étude des manifestations et des mouvements de contestation nous indique sur la société tchèque post-89?
Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup appris sur la société civile elle-même. La société civile qui est un sujet plus large que la protestation. Et il y a plusieurs conceptions de cette société civile. Il y a plusieurs types d'acteurs qui s'intègrent dans des familles d'idées, des mondes sociaux différents. D'abord, il y a le monde de la dissidence. De nos jours, ce ne sont pas toujours des anciens dissidents qui dirigent ces organisations. Néanmoins, il y a un certain nombre de gens qui s'identifient, qui s'intègrent dans un ensemble de justifications, qui admirent ces anciens dissidents. Et ils défendent un certain type, une certaine conception de la société civile. Et ce type de société civile et ce type de contestation est toujours très présente. Ensuite, il y a un grand absent, une autre conception de la société civile qui était, qu'on pourrait appeler une conception nationale centraliste, qui est défendue par le président Klaus actuellement. On peut y voir une certaine continuité avec les conceptions nationales centralistes que défendaient à une certaine époque les leaders du Parti communiste.
Qui est toujours présente et qui est reléguée par quel type de courant politique ?
Donc il s'agit d'une conception qui est reléguée par différents types de partis politiques et on les retrouve à droite comme à gauche, autant dans le Parti démocratique civique qui était le parti de M. Klaus que dans l'ancien Parti communiste et une partie de la social-démocratie. Et il s'agit de conceptions de la société civile amenant à croire que l'expression légitime de la société ne devrait se faire que par des élections. Que tout devrait s'organiser et se décider au niveau central et national.
Donc peu d'espace pour la manifestation de rue, pour la contestation spontanée d'acteurs de la société civile dans la rue.
Oui, et surtout peu d'espace pour la diversité des opinions et pour la multiplication des acteurs et des sources de légitimité. Et puis enfin, il y a un sujet important, c'est l'arrivée d'un autre type de protestation, d'une autre société civile, différente, qui ne comprend pas le monde de Havel ou même qui s'en distancie. Il s'agit de gens influencés par l'Europe occidentale, il s'agit des mouvements écologistes ou humanistes influencés par Greenpeace ou par de nombreuses autres organisations internationales. Et ici, on y voit plutôt une influence de la globalisation, une influence de la mondialisation plutôt, que des sources nationales de ce type d'activité.
Nicolas Maslowski, je vous remercie. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions universitaires européennes un ouvrage intitulé « Manifester en République tchèque, société civile et protestation 1989-2009 ». Au revoir.
Au revoir.
Il ne reste qu'à ajouter que les propos de Nicolas Maslowski ont été recueillis par Paul Bauer. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.